le nouveau nom de votre radio locale. France Bleu, il est 23h.
Programmateur chez France Bleu la nuit. Very good trip.
Les collecteurs de France Bleu. Génération 80
jusqu'à minuit.
Nostalgie.
I love you even if you think that I don't.
83, le style cheveux en pétard, costume trop grand, épaulette, super style, hein, Howard Jones, avec What is Love sur Nostalgie. William Pitt qui arrive avec City Light. Et puis je vous propose ce soir mon Bananarama que j'ai ramené de chez moi pour vous ce soir. Love in the First Degree. Belle soirée avec les grands tubes des années 80, seulement sur Nostalgie.
Génération 80.
Sur Nostalgie.
Got no time for memories.
life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on. Nostalgie, Génération 80, la classe avec William Pitt.
Nostalgie.
Tous fans des années 80.
Avec Guillaume Aubert.
Nostalgie, Génération 80. Génération
80. 23h15, à l'approche de Noël, évidemment, j'ai plein de cadeaux pour vous ce soir sur Nostalgie. Les plus grands tubes des années 80, peut-être que vous allez commander des vinyles sous le sapin de Noël, vous avez bien raison. Je vous propose des Pointer Sisters, ça c'est bon. Il y a aussi Kim Wilde avec View from a Bridge ou encore un bon Kenny Loggins, tout de suite.
Nostalgie Génération 80. Cette année,
même le Père Noël ne pourra pas vous offrir ce cadeau.
Vous invite à dîner
avec l'une des plus grandes stars des années 80.
Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert sur Nostalgie.
Toute la semaine,
jouez au double tube. Wow.
Deux titres de la star à la suite. Soyez là ou le plus rapide au 39-37.
Un jour j'irai à Nostalgie avec toi.
Votre dîner à la cool avec Jean-Louis Aubert.
Un cadeau unique à gagner avec
Nostalgie, les plus grands tubes.
Gotta write a classic. Nostalgie, les plus grands tubes.
Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy.
Mais ça fait du bien. Et qui défend aussi nos intérêts, et ça fait du bien, comme le disait Daniel à l'instant.
Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu... moi, je comprends. Hein, moi, si j'étais lyonnais, je serais très content. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais finalement, c'est circonscrit au cercle lyonnais. Parce que qu'est-ce que ça change dans le foot français ? Qu'est-ce que ça... tu vois, il est pas en gros, il n'a pas le temps, d'ailleurs, de s'occuper des affaires de la Ligue. On l'a bien vu.
C'est vrai.
En gros, il est entre Botafogo et Lyon. Je veux dire, voilà. Donc, c'est bien. Encore une fois, je ne dis pas qu'il l'a fait pour ça, hein, d'ailleurs, parce qu'il l'a répondu vraiment secrètement, entre guillemets, au départ. Ce n'était pas censé
mais
être public.
Mais Flo, que vaudront ce post Instagram, le départ anticipé hier de la tribune présidentielle au Parc des Princes, si au Mercato, tu apprends que Lyon doit vendre la moitié de ses joueurs parce qu'il y a des problèmes financiers?
Non, tu as raison.
Ouais. Bah, déjà, on a vu que déjà, ils n'auront pas la moitié de leur effectif à vendre, je pense, en valeur marchande du moins, pas autant, peut-être deux
mais
gros
si
départs,
mais
avec l'effectif qu'on a, si on perd Cherki, mais je pense qu'on a un effectif qui aujourd'hui nous permettra d'aller chercher au moins l'Europe, et de faire quelque chose en Europe qui serait raisonnable pour cette
En tout cas, ce qui est vrai sur sur Textor, juste après je t'en donne la parole, sur le personnage, et j'entends ce que tu dis de lui, je me souviens quand il est allé avoir un match des U17 ou je sais plus, tu sais, on a vu pas mal de choses comme ça sur les réseaux. En tout cas, il y a un storytelling, il y a un spectacle et il y a un personnage qui, pour le coup, par rapport à tout ce qu'on dit de la Ligue 1, apporte quand même quelque chose. Dans les débats qu'on a pu avoir, c'est quelqu'un qui remue les choses et les idées et
donc ce qui fait qu'aujourd'hui on en débat aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on en débat et vous en débattez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ça apporte une parole. Et quelque chose.
Non, mais il a une parole libre malgré tout, John Textor. Il n'est pas au conseil d'administration de la Ligue.
Il a une parole libre. C'est moi le seul reproche que je fais dans cette histoire, c'est juste de dire. Et c'est pas d'ailleurs son intention via ses messages. D'ailleurs, je le répète, mais néanmoins, la seule conclusion globale, c'est de se dire, ok, c'est bien, ce mec est libre, il est marrant et c'est super pour les Lyonnais. Mais après, so what. T'as envie de dire, politiquement, ça va rien changer, Nasser. Ces messages-là, en gros, ils s'en foutent un peu parce que ils ont réussi avec la Brune à verrouiller la Ligue.
Sur cette sélection, bien sûr. Mais je veux dire, ça peut permettre une rampe de lancement, au moins intellectuellement, de se dire au président, ok, on a peut-être à long terme moyen de rivaliser avec le PSG. Je veux dire, de créer une Ligue qui sera plus attractive, comme il le dit. Et sur ce point-là, je pense qu'il a pas tort.
Merci, Elliot.
Merci les gars, en tout cas super ce que vous faites et bonne soirée.
Merci, à bientôt. Salut, je crois qu'on a retrouvé un auditeur historique de l'After.
Oula.
Oui.
Ouais.
Qui?
C'est Christophe. Tu connais Christophe, supporter parisien?
Non.
Je crois que tu vas le reconnaître à la voix. Salut Christophe.
Bonsoir messieurs.
Salut Christophe.
Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu, Christophe.
Ouais, parce que je suis un peu... je suis un peu en colère après l'After en fait.
Ah bon? Aïe.
Pourquoi? Ouais. Et en particulier Daniel.
Aïe. Ah.
Donc, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je veux bien tout entendre. Ça fait des mois que je veux plus intervenir parce que je veux bien tout entendre, mais en fait, le bashing Nasser, en fait, il me fatigue. Le bashing Enrique me fatigue, et le bashing sur Barcola, de Bambi, Pampan, hier et tout, en fait, ça me fatigue. En fait, Daniel, tu vois, je vais t'expliquer un truc. Quand tu dis que c'est Nasser qui est à la base de tout, il se fera remarquer que celui qui a fait claquer la porte de Canal+, c'est pas Nasser, hein. C'est déjà il y a 3 ans. Donc c'est pas Nasser qui est responsable à la base de tout ce bordel. Parce que c'est Média Pro à la base de tout ce bordel.
Non.
Tu vois? Non, si.
Non,
si,
non.
Si. Les contrats qui devaient être mirobolants, ils ont déposé le bilan, non. Ça a été un bordel sans nom.
Non,
ensuite,
non.
D'accord.
Non.
D'accord. Alors, je vais juste continuer là-dessus.
Tu peux continuer à te tromper si tu as envie. Hein.
Ouais, si tu veux.
Bah, continue,
moi,
Christophe.
Moi, ce qui me gêne, c'est pas le journaliste. Tu vois? Ce qui me gêne, c'est la prise de position.
Ouais.
Qui est unilatéral.
L'After, Christophe, c'est historique. Et donc, ça existe depuis 2007.
Commence pas à gueuler parce que tu vas prendre la parole. C'est 20 ans que je te pratique, je te connais pas.
Vas-y. Donc, mais après, tu vas rester là parce que je vais bien te
faire. Mais après, je vais rester, mais il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas partir. Ne t'inquiète pas, moi, je ne vais pas partir. Tu vois? Voilà. Donc, moi, ce qui me gêne, tu vois, c'est pas qu'on ait une analyse sur le fond, sur Nasser, ce qu'il fait, ou ça me pose pas de problème.
Ça te gêne pas, mais c'est exactement ce que je fais pourtant.
Ce qui me gêne, c'est la manière dont tu présentes les choses et la manière dont tu as tes certitudes. Parce que moi, ce que j'aimerais, Daniel, une fois dans ta vie, c'est que tu prennes un club de foot et que tu nous montres à tous qu'on est des gros abrutis et que toi, tu vas être un super entraîneur.
Mais qu'est-ce qui te faut de plus quand tu regardes ce que fait le PSG depuis des années pour penser que t'es un gros abruti? Il faut
que quand tu me parles de Textor, je vous explique, on en reparlera. Lyon, dans 2 ans, on en reparlera. Ça sera le futur Bordeaux. Et là, vous serez en train de pleurer en disant, ouais, on l'avait dit que Textor c'était une merde. Ben ouais, parce que le mec il investit partout, il fait de la cavalerie. Exactement comme l'autre il a fait à Bordeaux. Il fait de la cavalerie ce mec-là. Et quand tu as des notions d'entreprise, et j'ai des notions d'entreprise, toi t'es journaliste et moi je suis entrepreneur, je peux te dire un truc, c'est que ce mec fait de la cavalerie. Tu vois, et qui va plomber un club historique comme Lyon.
On va reprendre point par point.
Plomber.
On va reprendre point par point. Donc toi t'es un chef d'entreprise.
Toi t'es un chef d'entreprise. Oui, pendant 35 ans, moi.
Alors, ok. Donc, toi, t'es un chef d'entreprise. La concurrence dans l'entrepreneuriat, c'est important ou c'est pas important?
Mais c'est,
tu connais le sport ou tu connais pas le sport?
Mais
tu
veux, c'est tu veux qu'on parle?
Attends, non, non, laisse-moi parler, Christophe, s'il te plaît, maintenant. Laisse-moi parler, je t'ai écouté. Donc, comme tu as raconté un sac d'ânerie, on va répondre point par point. Donc, la concurrence en matière de sport, tu peux parler avec tous les économistes de sport pour faire fonctionner le secteur économique du sport, tu as besoin de concurrence. La situation monopolistique ne conduit qu'à l'échec. La situation monopolistique, elle est voulue depuis 3 ans par le PSG, par Nasser El Khelaifi, qui a fait en sorte que toute la répartition de l'oseille soit de type léonin. Si tu n'as pas compris ça, alors que ça a été dit dans des rapports du Sénat, analysés par des grands experts, je ne sais pas quelle entreprise tu gères, mais mon Dieu, honnêtement, tu ne peux pas être plus à côté de la plaque. Que tu sois supporter, c'est une chose. Que tu sois aveugle, c'en est une autre. Ou alors les deux vont peut-être certainement ensemble. Si tu ne comprends pas que pour notre football, la situation monopolistique du PSG, c'est un problème, parce que tu as un président qui a décidé que la Ligue 1 n'était plus quelque chose qui comptait pour lui et que la réforme de la Ligue des Champions favorisait un business avec une vue internationale et qui a préféré prendre 200 millions pendant que les autres prenaient les miettes. Si ça, tu penses que c'est une bonne gestion, si ça, tu penses qu'il faut le mettre en avant, alors je pense que tu te trompes complètement. Quels sont les autres points encore? Je ne sais plus, qu'est-ce que tu...
Qu'est-ce pour sa défense, il vient de te dire que la concurrence était fondamentale, Christophe.
Alors Christophe, donc tu as bien vu, si la concurrence est fondamentale, déjà tu n'as pas compris ce que faisait le président du Paris Saint-Germain, qui, je le signale, Christophe, puisque tu écoutes l'after depuis longtemps, pendant très longtemps, justement, et Jimmy l'a dit, il n'y a pas si longtemps là, il y a 5 minutes, pendant longtemps, je n'étais pas dans le camp de ceux qui le défonçaient. Si tu es complètement honnête, je n'étais pas dans le camp. C'est le virage pris récemment qui a plombé notre foot. Et quant à Mediapro, puisque tu parles de Mediapro, qu'il y ait eu un échec avec des vues beaucoup trop importantes sur le fameux milliard qui a rendu tout le monde fou, et tu ne vas pas venir me faire la leçon. C'est le dossier, honnêtement, qu'on a le plus suivi et le mieux suivi. Et dans tous les médias, on a été tout le temps les meilleurs, même en information, sur ce sujet. Tu ne peux quand même pas nous reprocher ça, Christophe. Sur Mediapro, ce qui s'est passé à un moment, ça a été dit dans les livres, ça a été dit dans plein de rapports faits par des gens très importants, très intelligents, plus intelligents que nous. C'est qu'on a proposé une renégociation que nos dirigeants n'ont pas voulu, que derrière ils ont tout misé sur Bein et sur le Qatar, et qu'à la fin ils n'y sont pas allés. Ils n'y sont pas allés. Et qu'en ce moment, il y a des discussions en ce moment, Christophe, pour certains présidents et notamment l'OL, dire que ce serait peut-être pas mal d'inventer un média LFP, parce qu'il n'y a plus personne qui veut acheter les droits.
On n'a pas la garantie que ça fonctionne non plus, d'ailleurs.
Il n'y a pas de garantie que ça fonctionne, mais ils essayent de développer une idée, juste pour voir, ne serait-ce que l'idée. Je ne te dis pas que ça marche, je te dis l'idée. Discuter, si tu es chef d'entreprise, c'est important de faire des réunions où on discute. Eh bien, sache que dans ce comité de pilotage, où il y a différents présidents, et notamment l'OL, on n'a pas le droit de parler de l'idée. Parce que Nasser El Khelaifi fait partie de ce comité de pilotage et qu'il empêche toute discussion. Pourquoi ? Parce que, comme il a la double casquette et qu'il y a un conflit d'intérêts, Bein, Ligue, on n'a pas le droit de parler de cette idée. Tu trouves ça normal ? Et tu vas venir me reprocher à moi d'être trop dur ? Mais je ne suis que juste, en fait. Christophe, non,
attends,
bon sang !
Attends. Pendant l'ère Olas, qui dirigeait le football français?
Mais la qu'est-ce meilleure que je disais, moi? Mais qu'est-ce mais que qui... Mais je disais quoi à l'époque?
Mais il était où? Mais il est... Attends, il était où, Olas? Il était partout.
Mais je disais la même chose.
Au milieu de terrain, pénalty pour Lyon.
Christophe, mais c'est quand même incroyable. Je le dénonçais. Je défendais même Nasser à l'époque où Olas l'accusait tout le temps. Mais tu dormais à l'époque ou quoi?
Non, mais je te dis.
Mais je ne veux pas. Je suis le modèle que je combats. C'est la toute puissance d'un seul président. On avait eu Tapie à l'époque. On a eu Ola, mais on a une mauvaise habitude dans notre football. En Espagne, tu as deux grandes équipes, même une troisième avec l'Atlético. Et tu as un président.
Mais quelles grandes équipes? Barcelone, Christophe, ils sont blindés de dettes.
Christophe, non mais.
Blindés de dettes.
Non mais ne mélange pas tout.
Mais
ne
on
mélange
parle
pas
de Dora.
Mais non, mais tu me parles de.
Je te parle pas de ça. Je te parle de pouvoir.
Parle-moi d'argent. Les mecs trafiquent les comptes sans arrêt pour pouvoir continuer à recruter.
Je te parle pas de ça. Je te parle de pôle de pouvoir. Christophe, je te parle de pôle de pouvoir.
Avançons les gars.
Non, non, attends. Je lui explique un truc. Je te parle de pôle de pouvoir. Tu as des pôles de pouvoir, des puissances qui sont réparties. Et tu as au milieu un président de la Ligue en Espagne qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui est un personnage hyper fort, qui a du pouvoir. En Italie, tu as différents pôles de pouvoir. En Angleterre, tu as, nous, on a une mauvaise habitude, qui a, qu'on a des présidents qui se veulent. Et là, on a un gars qui veut faire peut-être, mais je ne dis pas que c'était mieux avant. C'est pas ça que je dis. Je dis, il faut arrêter avec ce système. Ça ne nous aide pas en Coupe d'Europe. Ça ne nous aide pas en Coupe d'Europe. Tu le comprends ou pas? Tu le vois chaque année que ça nous aide pas, que ça nous a conduit à faire des choses complètement folles, des recrutements aberrants en prenant des stars qui coûtaient des millions pour rien. Quel a été le rendu de tout ça?
Alors,
ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des stars dans deux, trois clubs.
Christophe, je te pose une question pour conclure. Toi, aujourd'hui, le PSG de cette année-là, Nasser, El Khelaifi, Luis Enrique, Barcola, tout ça, t'es satisfait? T'es content?
Non, mais non, je peux pas. Ah. Non, je ne suis pas satisfait de cette équipe. Je ne suis pas satisfait de ce qui se passe à Paris. Je ne suis pas satisfait. Je te le dis. Je ne vais plus au parc. Ça fait au moins deux ans que je vais plus
alors,
au parc.
Christophe, ah,
je
finir
je...
ça,
non, toi. Attends. Je veux simplement te dire une chose. Peut-être que le problème du football français, c'est l'institution même de la Ligue et de la FFF. C'est peut-être ça le vrai
mais
problème.
Mais Christophe, je suis d'accord,
français.
J'arrête pas de le dire.
C'est pas un problème.
Mais je le dis tout le temps. Les mecs s'engueulent depuis 10 minutes, en fait, ils sont d'accord.
Christophe, mais je suis d'accord, je le dis tout le temps que c'est le problème de la LFP, Christophe. Je le dis tout le temps, mais le problème, c'est que la LFP, le mec, il est allé se mettre dans la poche de Nasser.
Quand tu claques la porte à Canal et que tu vois les retransmissions aujourd'hui à DAZN, mais c'est pathétique, mais t'as même plus envie de regarder le foot.
On est d'accord, Christophe, je vois pas ce que tu me reproches en fait. Hein.
Non, mais je te dis que on a une personne aujourd'hui à la Ligue qui n'est emblématique de rien du tout. Quand tu dois te rapprocher aujourd'hui du groupe Canal, vraiment, de peut-être vendre les droits à Canal à 400 et puis repartir sur une base plus saine pour les clubs français, et ça va peut-être être merdique pendant deux ans, trois ans, mais il faut reconstruire le football français. Aujourd'hui, tu te fais chier quand tu regardes un match de foot.
Christophe, s'il y a un truc que tu peux pas reprocher à Daniel, c'est de pas avoir tapé sur Vincent Labrune depuis quelques mois quand même.
Alors franchement, Christophe, je comprends pas. Moi, je veux bien que le supporter qui est en toi prenne mal, que en plus c'est des dossiers qui sont qui sont séparés. Le fait que je critique Luis Enrique et Nasser, ça va pas ensemble en fait. C'est deux choses. D'un côté, il y a le côté institutionnel et le côté football. Que tu sois pas d'accord sur Luis Enrique comme Flo, j'ai pas de problème avec ça.
C'est plus
mais Nasser,
forme.
C'est le côté institutionnel.
Je pense qu'au final, la forme fait beaucoup. Parce que bon, pour Nasser, c'est autre chose. Parce que je pense un sujet politique est assez clair. Mais sur Luis Enrique et Barcola, je pense que sur la forme, les gens ne comprennent pas forcément ce que tu veux dire quand, par exemple, tu parles de Bambi et Pampan, alors que les mecs sont des jeunes joueurs qui font tout pour progresser. Oui, mais si tu veux, certains y voient un manque de respect. Barcola s'en fout un peu, il a déjà répondu à ça. Non, mais je t'explique ce que les mecs sentent là-dessus.
Christophe, j'ai une dernière question.
Plus rire? Avant, on pouvait faire des vannes dans l'after, on pouvait rigoler, donner des surnoms. Aujourd'hui, les mecs s'offusquent de tout.
Non, Daniel.
Les surnoms, j'en donne depuis toujours.
Daniel, c'est pas le problème. Que tu dises une fois Barcola, Bambi, moi, la première fois que tu l'as dit, ça m'a fait rire.
Eh ben
honnêtement.
Alors.
Mais au bout de 10, 15 fois, en fait, change, trouve un autre truc. Le génie, par exemple, le génie, c'est chiant. À vous, même toi, ça doit te faire chier de le dire à chaque fois.
J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait ça.
C'est nous qui avons inventé Pep Genesio.
Je sais pas si tu te rends compte. Pep Genesio, on l'a inventé, on n'arrêtait pas. Aujourd'hui, Genesio, non seulement il le prend pas mal, mais c'est quelqu'un que moi, personnellement, j'apprécie énormément.
Et il fait beaucoup mieux que Pep Guardiola cette saison.
Mais on l'a toujours fait. Pourquoi
Christophe, est-ce qu'après cette discussion, tu t'es un peu réconcilié avec l'after?
Ah non, mais l'after, si tu veux, c'est une émission, ça fait 20 piges. Je suis venu dans vos studios et tout. J'adore écouter l'after. Si je gêne, ce que je voudrais, c'est pas.
C'est
encore une fois, la critique du football, moi, c'est quelque chose que j'adorais dans l'after. Honnêtement, ce qui me gêne, si tu veux, c'est l'approche frontale de toujours remettre en question le club. C'est ça qui me fait chier. Tu comprends? C'est pas le reste.
Oui, moi, c'est tu peux très bien dire. PSG, au moment, tu trouves que c'est trop.
Voilà, non, mais tu peux très bien dire qu'au.
Familial compte énormément. C'est quelqu'un qui a été.
Fréquence 3. Fréquence. Pas de Noël.
Ouais, c'est ça, ouais, ouais.
Et quand elle était jeune.
Non.
Vous avez des voilà des retraites
là en fait.
En dur. Il a beaucoup, beaucoup.
Oui, Vitinia.
À tout de suite, d'ailleurs.
RC.
Lineur, il a des qualités exceptionnelles et ça sautait aux yeux.
Bonjour tout le monde.
Je pense qu'il t'aime autant que ton frère, même.
Les interrogatoires, c'est une personnalité.
On le fait pas là.
Par exemple, sur.
Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne.
Ça va bien coller, c'est très important et c'est un des ressorts fondamentaux de la réussite et d'une réussite plus durable et aussi de toute cette enveloppe de confiance de soi mais aussi d'épreuves, de la difficulté qui joue fortement pour desserrer l'étau de l'excès d'individualisme.
Alors ce sont de multiples facteurs qui vont contribuer au développement d'un talent, mais ce que disait Sama Karaki tout à l'heure, c'est que le facteur qui a le plus de poids, c'est le milieu socio-économique.
Oui, c'est vrai que puisque vous êtes né dans un milieu, ça c'est clair et net, et le cours que j'ai donné cette année sur l'éducation au Collège de France, que j'ai achevé ce matin, il mentionne typiquement ce phénomène tout simplement parce que les compétences qu'on acquiert très tôt, on est câblé immédiatement, et la famille joue un rôle énorme dans l'éducation, mais aussi dans beaucoup de vies où on apprend quelque chose, et les arts, les sports, les sciences, c'est la même chose, on apprend. Vous ne passez que 15% de votre temps dans un milieu comme le milieu scolaire ou le milieu où on est formé. Le reste, c'est la famille pendant de très longues années. Et donc, la famille sert à constituer cette enveloppe de à la fois exigence, gratification, reconnaissance, mais demande. Et elle a aussi ses propres injustices. Il y a des travaux qui montrent que les premiers de la fratrie sont parfois plus favorisés que les seconds, alors qu'on pourrait se dire le patrimoine génétique est le même. Eh bien non, il y a des différences au sein de la famille. C'est injuste. Greco Casazzu parlait d'une certaine manière de la tribu familiale. Peut-être que tous n'ont pas réussi au même niveau. Donc la famille joue, mais il y a aussi il ne faut pas indexer la famille strictement seulement sur le niveau social de la famille, c'est-à-dire la famille de gens aisés, etc. etc. Un de mes doctorants, Pascal Préra, a fait une thèse sur les footballeurs qui vont faire carrière dans les ligues anglaises de football. Elles sont plus nombreuses qu'en France. C'était des enfants des banlieues, vraiment pas très favorisés, mais la famille était derrière, la famille les équipait. Et ces gamins, ils doivent avoir à 12 ou 13 ans, quand ils sont lancés dans le début de carrière, dans des clubs, des centres d'apprentissage, de formation, etc., ils doivent se constituer une maturité psychologique. Et la famille est à la fois là pour les équiper et pour être une sorte de buffer, de tampon pour absorber ces choses-là et pour continuer à les stimuler. Ça fait des différences gigantesques.
Alors, les pouvoirs publics ont cette volonté affichée de réduire les inégalités de chance. On entendait la démarche de la FEMIS qui change de jury pour changer de regard. Alors, ce qui souligne le fait que le talent, en fait, c'est subjectif et c'est culturel.
Oui, alors les concours de, c'est là qu'on entre dans la distinction entre les différents domaines. Dans les arts, évidemment, la dimension d'arbitraire ou de subjectivité, pourquoi un tel est sélectionné par un concours d'entrée dans une grande école, ça dépend des jurys, donc on va varier les jurys, on va varier les profils des jurés, on a très bien entendu ça. Ça peut jouer, évidemment, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de talentomètre pour mesurer exactement le potentiel de l'individu qu'on veut recruter. Dans les sciences, c'est un jury de pairs, ce sont des pairs qui vous évaluent, on ne joue pas tellement avec les règles, on est évalué sur des bases beaucoup plus précises, même s'il y a des sciences qui sont moins faciles à évaluer que d'autres, et dans les sports, le chronomètre dit la vérité. Donc,
oui, alors avec les Paralympiques, on peut voir que parfois les règles aussi sont amenées à...
Alors, on peut modifier les règles, un des grands ressorts de toute forme de compétition, c'est quelles règles vous donnez à la compétition, et vous pouvez changer le... pas le résultat peut-être, mais enfin, vous pouvez changer les modalités de détection de talent en changeant les règles du jeu, d'une certaine manière. Donc, il faut sans arrêt varier les perspectives sur les différents domaines pour comprendre ce qui se joue. Dans les arts, par exemple, quelqu'un qui est, ou dans les sports, quelqu'un qui est arrivé deuxième aux Jeux Olympiques, il ne sera pas très connu, or, il a quelques centièmes de talent de moins, mais qu'est-ce que c'est que cette injustice absolument faramineuse ? Et dans les arts, est-ce que une réflexion très subtile avait été faite par un économiste qui avait dit quelqu'un qui est un tout petit peu moins talentueux qu'un autre, même dans les oreilles de gens qui sont très expérimentés, pour un public normal, il ne s'en apercevra même pas, et c'est pourtant lui qui va rafler la mise. Donc, des différences infinitésimales servent à créer peut-être des écarts de réputation et de réussite gigantesques. Ça, c'est le côté très injuste de la situation.
Merci Pierre-Michel Menger. Le grand reportage La Fabrique du Talent était signé Azaïs Perronin et réalisé par Annie Bro, et c'est Ruben Camarzine qui était à la technique. Merci également à la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.
Vous êtes bien sur France Culture.
Vous avez fait une grosse sieste cette année, non ? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture. Saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Comment la vie, exclusivement marine, est-elle sortie de l'eau ? Marc Mortelmans vous raconte l'aventure des premiers explorateurs qui passent de l'eau à la terre avant de conquérir le ciel, sans oublier ceux qui sont retournés à l'eau, comme les baleines ou les manchots.
Dans les premiers océans, des molécules trouvent le moyen de s'agréger, puis de se reproduire.
Mécanique du vivant, une collection par Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, les nuits de France Culture.